Le mal est là, tapis en chacun de nous. Nous sommes capables du meilleur. Et nous sommes capables du pire.
Monsieur le Président de la République française.
Les plus civilisés des hommes, les plus parfaits sauvages.
Les Sauvages, c'est la grande série politique de la rentrée, la nouvelle série de Canal+, dont le premier épisode sera diffusé lundi soir. Une série pleine de bruit et de fureur qui prend à bras-le-corps la France et ses démons contemporains. Une France de l'état d'urgence, marquée par le terrorisme, poursuivie par son passé colonial, menacée par la montée du Front National et divisée par le racisme. Une série tournée sur l'ère de la danse des sauvages des Indes galantes, adaptée des romans éponymes de Sabri Louata, coécrite et réalisée par notre invitée Rebecca Zlotowski. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci
ce matin.
À vous.
Mais dites donc, vous êtes sur tous les fronts. C'est un film il y a à peine un mois, très remarqué, Une fille facile. Maintenant 6 épisodes de 52 minutes pour Canal+. Alors a priori, ça n'a rien à voir, hein, Une fille facile et Les Sauvages. Mais si on regarde bien, il y a presque comme un désir de réparation dans les deux cas quand même.
Ah, c'est joliment dit, j'aimerais bien. D'abord, je m'excuse auprès des auditeurs qui m'entendraient trop, mais je les encourage à voir les œuvres collectives auxquelles j'ai collaboré, a fortiori pour une série. C'est vrai que dans les titres quasiment, entre Une fille facile et Les Sauvages, il y a le désir, avec un tout petit peu de malice et de provocation, de donner des titres très puissants qui sont plutôt les représentations stéréotypales de l'ennemi idéologique et qui ont tendance, vocation, à réconcilier, réparer, apporter un autre point de vue, un autre regard et déconstruire le cliché.
Si je ne m'abuse, c'est votre première série. C'est la première série que vous réalisez.
Sans aucun abus, vous ne vous abusez pas.
Vous êtes une grande amatrice de séries, vous en regardez beaucoup.
Alors, grande amatrice, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des gens qui se sont usés les yeux plus que moi, mais j'appartiens à ma génération. Si bien que j'ai commencé à voir des séries, je pense à la fin des années 90, milieu des années 90. J'avais. Mon père nous avait abonné à une chaîne du câble qui s'appelait Canal Jimmy. Et qui était une chaîne qui nous permettait d'avoir accès à des séries importées des États-Unis, aussi importantes pour moi aujourd'hui que du feuilleton sitcom comique, comme Seinfeld, Dream On, qui ont donné, je pense, vraiment toute une génération de comédies aux États-Unis, de Curb Your Enthusiasm, toute une génération comme ça qui me séduit beaucoup. Et d'un autre côté, de la série très longue, feuilletonnante, comme Les Sopranos, comme The Wire plus tard, comme l'adolescente que j'étais voyant Angela à 15 ans, comme évidemment la cinéaste que j'allais devenir voyait Twin Peaks. Et tout ça, c'est évidemment des séries qui ont été structurantes pour moi.
Et les séries françaises, alors elles sont plus récentes, hein, mais justement pour Canal+, par exemple, Engrenage, Le Bureau des Légendes, je pense à Baron Noir, 10% aussi, oui. Est-ce que vous avez regardé tout ça?
Bien sûr, j'ai vu 10%, j'ai vu Le Bureau des Légendes, c'est des séries qui m'ont séduite chacune vraiment profondément et pour des raisons différentes. Dans Le Bureau des Légendes, d'ailleurs, on partage avec Rochon notre compositeur Robin Coudert, Rob. Et je crois que ce qui est assez passionnant, c'est en plus je lisais une note, enfin je suis évidemment pas la seule à les aimer, ils peuvent quand même se vanter d'avoir quelques supporters dans le monde. Je lisais une interview de Michael Mann dans Libération qui disait que sa série préférée en ce moment c'était Le Bureau des Légendes. On n'a rien à envier aux Américains.
Rebecca Zlotowski, regarder une série, ça n'est pas la même chose que la tourner. Alors est-ce qu'en regardant des séries, pas dans les années 90 quand vous étiez toute petite encore, mais disons un peu plus tard, quand vous êtes devenue cinéaste, est-ce que vous, en les regardant, vous vous disiez « Ah, j'aimerais bien en faire une un jour ».
Pas du tout. D'abord, il n'y a rien que j'ai pu regarder. Comment dire ? J'avais pas ce... Quand j'étais spectatrice, et je dis ça parce que peut-être qu'à l'époque, d'ailleurs, j'étais spectatrice et pas consommatrice. C'est-à-dire que peut-être éventuellement le déplacement qui s'est opéré dans les années 90 à 2010, c'est que j'ai regardé ça comme une cinéphile au départ ou comme une observatrice qui pouvait pas imaginer en fait passer de l'autre côté hein, de l'écran. Pendant longtemps d'ailleurs, j'ai pas imaginé pouvoir faire du cinéma, sans doute parce que je manquais de représentation de femmes de mon milieu qu'on faisait ou et ensuite j'ai eu une position directement de consommatrice. C'est-à-dire avec le rapport à l'addiction, le rapport à la place de la publicité qui est un parti là-dedans, et puis un peu de libéralisme, tout ça là-dedans. Et ce qui m'a plu aujourd'hui en tant que cinéaste, c'était de me dire comment on peut confier un autre rapport devant l'écran au spectateur, peut-être un peu plus actif, peut-être un peu plus amateur, un peu moins consommateur. Et aussi, c'est vrai que je m'y suis placée au centre, puisque je l'ai imaginé avec Sabri Louata, sur une matière qui lui appartenait, qui n'était pas complètement ma matière.
Et comment vous vous en êtes emparée ?
Bah d'abord avec lui, en lui demandant la permission. En lui demandant la permission, en l'écoutant, en le remerciant. Parce que la matière, en fait, des Sauvages, donc pour ceux peut-être qui n'ont pas lu le roman, c'était une saga en 4 tomes.
Le premier a paru en 2010.
Oui, elle avait paru en juste avant Soumission de Houellebecq, qui en reprenait l'argument d'une manière un petit peu nocive, sombre, avec l'ironie houellebecquienne. L'ironie nihiliste houellebecquienne, enfin.
C'était à l'élection à la tête de l'État français.
Ouais. Du premier président d'origine algérienne. Je sais pas s'il était d'origine algérienne dans le livre de Houellebecq, mais ce qui est certain, c'est qu'il était musulman. Dans notre cas, c'était vraiment l'élection d'un Français d'origine kabyle, sans rapport à l'islam. Et dans le cas de Houellebecq, c'était le retour de la charia. Et avec tous les développements comiques, inquiétants, profonds, voilà, que ça pouvait susciter. Dans le roman de Sabri Louata, qui était une saga déjà en fait quasiment destinée à être feuilletonnante, évidemment le postulat était très différent, plus lumineux, plus optimiste, jouant avec cette idée comme quelque chose qu'il fallait faire advenir plutôt que redouter.
C'est une fresque familiale et politique, hein, Les Sauvages, il faut le dire clairement, c'est interroge la France d'aujourd'hui. Il y a deux clans, il y a deux familles que tout oppose, les Nérouches et les Chaouches. Les premiers, on peut dire d'eux qu'ils sont des immigrés d'Algérie, qu'ils vivent à Saint-Étienne, qui sont plutôt modestes, l'un des fils est en prison. Les seconds sont plutôt cosmopolites, bourgeois, parisiens. Le père est français d'origine kabyle, c'est Roche Dizem qui va devenir président de la République. C'est un économiste professeur de Harvard. Il est marié avec une chef d'orchestre française et il est candidat donc à l'élection présidentielle au début de la série. Ce qui les rassemble, c'est l'un des fils Nérouche, c'est-à-dire Fouad, qui est un acteur de série télé connue. Et il est le petit ami de la fille du futur président. La fille s'appelle Jasmine Chaouche. On a donc aussi une histoire d'amour et de haine. Et on est un petit peu, quand même, Rebecca Zlotowski dans les Capulet et les Montaigu. C'est-à-dire dans Roméo et Juliette. Il y a un peu de ça, quand même.
Bon, alors là, je ne sais pas s'il faut mentir. Ce qui est certain, quand on dit ça, ce qui est beau, c'est la dimension shakespearienne. Là où elle est belle, c'est qu'elle est baroque et qu'elle fait trembler quelques couloirs du pouvoir avec des passions. Et c'est certain que jusque dans le titre, vous évoquiez un passage des Indes galantes hein, dans votre introduction. Évidemment, le titre qu'a choisi hein, Sabri Louata, c'est non seulement cette assignation qu'il fallait déconstruire, mais aussi un moment musical qui appartient au grand siècle et qui est une incarnation du motif baroque dont la série s'inspire. Oui, il y a du soap familial, oui, il y a des familles qui s'affrontent, ces deux familles qui sont d'origine kabyle, où bien sûr il y a de la politique, mais c'est surtout sur un temps restreint. Combien un pays peut s'enflammer à l'image d'une famille.
C'est une saga familiale, c'est un thriller avec une dimension complotiste, mais c'est aussi une dystopie. Pourquoi vous me levez le petit doigt comme si vous alliez arrêter ce que
Parce que sur le mot complotiste, en fait, ça a vraiment été un élément de négociation, de conversation, de polémique avec Sabri Louata, qui est un auteur qui a du génie en lui et qui a aussi une autre perception. Peut-être plus, il y avait vraiment une intrigue très byzantine, politicienne de thriller. Et moi, justement, et ça peut peut-être nous amener même à parler de la Maison Blanche que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Mais dans les grandes séries, une grande série américaine comme West Wing, à la Maison Blanche, il y a l'idée qu'on peut raconter aux spectateurs qu'ils sont du bon côté, qu'on n'est pas du côté de la pensée complotiste, qu'on n'est pas du côté de la facilité de raccourcis, qu'on n'est pas perdu en fait dans le signe que nous renvoie le monde. Et c'était très important pour moi, en termes de responsabilité politique de la série, qu'on mette de côté la pensée du complot. Il n'y a pas de complot dans la... Il n'y a pas de complotisme, il y a peut-être des complots, mais il
n'y a pas de complotisme. Exactement. Voilà, ce que je voulais dire, c'est peut-être l'ambiguïté de la façon dont j'ai présenté les choses en disant avec la dimension complotiste. Ce n'est pas du tout d'ailleurs dans la façon dont vous l'avez réalisé. C'est dans le film qu'il y a des complots qui se trament contre le pouvoir. Et alors, il y a quand même une question qui se pose, Rebecca Zlotowski, qui est une question de fond. C'est que vous abordez beaucoup de sujets sensibles aujourd'hui. La question du terrorisme islamiste, de l'héritage colonial, de Paris, des villes de France, des inégalités sociales, la montée du Front National. Pendant quelques jours, c'est-à-dire les 6 ou 7 jours que dure la série, on tire sur un président fraîchement élu, un pays s'enflamme, il y a des émeutes qui éclatent, la République vacille. Bref, vous avez travaillé en terrain miné. Est-ce qu'il y a des écueils que vous avez voulu éviter? Est-ce qu'il y a des caricatures qui étaient difficiles ou des pièges dans lesquels vous risquiez de tomber? Et comment avez-vous fait pour les éviter?
La réponse est dans votre question. En première partie de la question, il n'y a que des écueils, il n'y a que des coups à se prendre quand on essaye de se confronter au contemporain. C'est plus facile de jamais filmer un, comme ce que j'avais fait, jamais filmer un téléphone portable, de parler de sentiments amoureux ou de fonctionner sur une métaphore. Là, il était question vraiment, je pense à d'autres films que j'ai pu faire, là, il était vraiment question de sculpter avec ce qui nous traverse. Et on est tous traversés de ça. Alors évidemment, si on prend, enfin, et quand je dis ça, c'est pas une, comment dire, il n'y a pas un chaudron dans lequel on aurait mis tous les ingrédients. C'est plutôt, si on regarde loyalement, hein, des psychoses qui peuvent traverser certaines familles françaises d'origine kabyle, d'origine algérienne, avec le point aveugle quand même de la France avec sa décolonisation, notamment algérienne. Oui, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de parler de conflits de loyauté, de transfuges sociaux, d'amour contrarié, de rapport au pouvoir qui se confronte au racisme, de monter des tensions, des radicalismes. Quand je parle de radicalisme, je parle pas d'islamisme, mais je parle d'un côté de l'extrême droite qui se crispe, et cette polarisation en fait d'un pays entre extrême droite, extrême gauche, montée des communautarismes. Et ça, en fait, si on regarde les humains, si on regarde les gens sans regarder les idées, on ne peut pas en faire l'économie. Et donc, à un moment, on essaye de naviguer. On a essayé avec Sabri Loata de naviguer. Déjà, son texte existant était extraordinairement juste, crédible. Il essayait d'associer, en gros, l'épopée d'un roman très européen, très russe, et le storytelling très efficace d'une série américaine comme The Wire. Moi, j'ai hérité de ça. Donc après, il aurait vraiment fallu que je salisse son travail pour en faire quelque chose de moins intéressant.
Vous vous sentez proche des personnages ?
Oui.
En quoi ?
Je pense que il faudrait voir chacun. C'est un film, c'est une série très chorale. Je suis une Française de la. Je suis la première génération de ma famille à naître en France, c'est ma sœur et moi. Donc j'ai une mère qui était née au Maroc, d'origine berbère, un père qui est la maison de Radio France connaît bien parce que parfois on se réveille avec sa voix, il est traducteur, qui est né en Pologne, qui est
le Michel Zlotowski, que nos auditeurs connaissent bien en effet.
C'est le Michel Zlotowski de ma vie, mais peut-être de la vie de certains auditeurs.
Je confirme.
Donc voilà, c'était, vous voyez, un héritage donc de qui a dû se questionner un moment dans son rapport à la France et qui l'a résolu d'une autre manière que Sabri Loata, le co-auteur, co-créateur de la série et romancier de cette grande fresque qu'on a adaptée pour Canal+, qui lui n'a pas eu la même chose, si vous voulez, que la France. On n'a pas eu le même rapport au moteur de l'École de la République. On n'a pas eu le même rapport et ce même rapport, on l'a pas eu parce qu'on n'a pas la même couleur de peau. Et je pense que ça a été vraiment en même temps un élément d'identification très puissant pour moi dans la série, avec les personnages qui sont à 95%. C'est quand même la première fois qu'il y a pour une série à 95% avec une majorité de minorités. Et ça me correspondait, ça faisait écho, mais c'était aussi la raison pour laquelle je pouvais avoir de la distance.
Et c'est pour la raison pour laquelle l'auteur, hein, Sabri Loata, dit qu'il avait aussi envie de donner à voir des Arabes dans un éventail de rôles où on ne les voit pas d'ordinaire. Et il dit « Les romans et la série ne sont pas politiques par le message qu'ils délivrent, mais par les représentations qu'ils s'efforcent de transformer. »
Vous
le rejoignez ?
Ben oui, en tous les cas, bien sûr, je le rejoins. J'ai l'impression qu'un si on avait eu un message, ça aurait été c'est Proust qui dit, hein, une œuvre d'art avec un message, c'est comme un cadeau sur lequel on aurait oublié le prix. Donc si on voulait avoir quelque chose d'idéologique très puissant ou un discours politique, on aurait fait autre chose, sans doute de la politique. C'est vraiment dans la conscience qu'on a, la responsabilité à fabriquer de nouveaux visages, faire émerger une nouvelle génération d'acteurs, et surtout à ne pas avoir peur. Vous parliez de clichés ou de représentations.
Oui, parce que c'est souvent... C'est comment éviter le stéréotype, comment éviter l'incarnation sociologique... Enfin,
ou l'inverse.
Le problème de société, quoi, type.
Mettre de côté le sociétal pour entrer dans quelque chose de plus poétique et en même temps d'avoir une foi immense dans la fiction pour faire changer et bouleverser les représentations. Ça veut dire aussi ne pas avoir peur. L'idée n'était pas d'aller chercher des Arabes qui puissent être exclusivement neurochirurgiens quand c'est des femmes. Vous voyez, il y a une idée aussi d'une espèce de représentation poussée, appuyée, qui correspond pas non plus à la réalité. Et notre société civile, elle est plus riche en fait que ça.
Rebecca Zlotowski, il faut absolument parler du casting, puisqu'on parle des personnages et que les personnages sont centraux, fondamentaux dans votre série. Dans le casting, il y a des acteurs connus, il y en a d'autres moins connus. On peut les citer, Dali Ben Salah, Souhaïla
Yacoub,
Shahin Boumediene,
Farida Rawatch, Karima Amarouche, qui réinventent complètement le modèle des mères algériennes, Ilyes Kadri, qui est merveilleux, Lina Koudri, qu'on voit aussi dans Papicha, et qui fait un film qu'il faut défendre en plus, puisqu'il est menacé quasiment un petit peu de censure en Algérie en ce moment. Et puis du côté des acteurs très très confirmés, évidemment,
Roche Dizem qui joue donc ce président de la République française.
Amira Kazar qui joue sa femme, chef d'orchestre. Et Marina Foïs, sa garde du
corps. Qui joue la chef de la sécurité de l'Élysée. Et puis Sofiane Zemrani, Fianso, le rappeur, qui joue le frère radical.
Le frère nihiliste, pour moi, c'est plus un grand nihiliste du clan Nez Rouge. C'est le vilain, le méchant de la série. Est joué par ce rappeur qu'on connaît un peu à France Culture parce qu'il a fait quelques dramatiques.
Vous écoutez bien France Culture.
Bah oui, je suis une bonne... C'est vrai que je suis
une auditrice.
Je suis une auditrice. Et qui est pour le reste de la France surtout un immense rappeur très fédérateur. Moi, je l'appelle le Jacques Martin du rap parce que il a une personnalité.
Ça lui fait plaisir.
Ouais, ça le fait sourire. Il a une personnalité ultra fédératrice, positive, radieuse, solaire. Et ce qui était assez fascinant, c'est que ma directrice de casting Judith Chalier, en parlant de lui, en lui proposant ce rôle-là qui était le rôle le plus sombre de la série, qui était un rôle quasiment de Marvel, quoi, qui au départ dans la saga de Louetta, c'était très difficile de l'incarner. Et je crois qu'on a réussi, que c'est la raison pour laquelle vraiment la série peut fonctionner, c'est que ce méchant-là, souvent Hitchcock dit plus le méchant est, et meilleur le méchant est, plus meilleur la série l'est, meilleur le film l'est. Je crois que notre méchant est très très bon.
Est-ce qu'un président de la République outre-Atlantique a pu inspirer le personnage de Roche Dizem?
Vous vous regardez du côté de Barack Obama,
par exemple, je vous pose la question, vous l'avez dit vous-même. Oui.
Oui, je trouve qu'il y a une... Alors, pour deux raisons, au moment où Sabri Louetta écrit la série, c'est vraiment écrit le roman, c'est juste après l'avènement de Barack Obama. Je pense que ça l'inspire énormément, ça l'inspire en creux en se disant où en est-on en France, à quel endroit, à combien de centaines de kilomètres on est en France de ce type d'élection possible. Et il y a une image qui l'inspire énormément, notamment, il en parle, c'est un petit garçon dans le bureau ovale de la Maison Blanche qui essaye de se monter sur le haut des pieds, et Barack Obama se baisse et lui fait toucher ses cheveux crépus en lui disant « Regarde, c'est possible, regarde, on a les mêmes et c'est possible ». Et c'est certain que dans le choix de Roche Dizem, qui par ailleurs s'impose pour d'autres raisons, évidemment, il y a quand même cette ressemblance qu'on a vraiment travaillé dans la direction artistique et dans l'idée que pour des spectateurs français, si on renvoyait vers Barack Obama, on allait déjà un tout petit peu y croire, alors que, hélas, on est vraiment quand même dans le domaine de la dystopie en France.
C'est aussi une série qui a une forte dimension sociale, qui est tournée à Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est la ville de naissance de Sabri Louetta. C'était une évidence de tourner là-bas, Rebecca Zlotowski ?
Pour moi, oui. Pour lui, oui. Pour lui plus que pour moi, d'ailleurs, puisqu'il en vient. Et comme tous les grands romanciers, il a écrit le roman de sa ville. Et alors, très bizarre, j'avais l'impression de rencontrer les enfants d'un homme marié avec qui je me mettais. Ça, il fallait que j'aime la ville, vous voyez ce que je veux dire ? Là, la question ne se posait pas. Je suis arrivée à Saint-Étienne, il a décrypté dans mon regard si je comprenais la poésie chiminesque et industrielle, américaine quasiment, de cette ville reléguée, qui est pourtant une des villes je crois que c'est la 10e ou 12e ville de France. Et pourtant, de cette ville, on n'en connaît que les industries lourdes qui ont périclité, un chômage puissant, l'isolement, l'enclavement par rapport à Lyon. Et donc, c'est une ville qui m'a fascinée en la rencontrant, parce que j'y voyais un motif vraiment de ville industrielle abandonnée américaine. Et aussi une ville qui nous racontait la crise qu'on allait être amené à vivre pendant le tournage, qui était la crise des Gilets jaunes, qui était celle d'une France périphérique, reléguée, et une France oubliée, qui n'est ni la France des très grandes villes, ni la France des cités périphériques.
Alors c'est 6 fois 52 minutes, hein, c'est une mini-série. 6 fois 52 minutes, il faut quand même tenir le spectateur.
J'en ai perdu ma voix.
On évoquait Éric Rochant qui réalisait le Bureau des légendes tout à l'heure. Éric Rochant, il disait la grande différence entre la série et le film, ou une série et un film, c'est que la série doit en avoir dans le ventre pour tenir en haleine le spectateur jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait pour vous la puissance addictive d'une série, Rebecca Zlotowski ?
Son scénario.
C'est le nerf de la guerre, le scénario.
Pour moi, oui. Mais je peux me tromper, parce qu'il existe, vous voyez, j'ai vu Euphoria, évidemment Twin Peaks, c'est différent. Je pense que quand on est dans le canin génie comme David Lynch, et puis très libre, c'est autre chose peut-être, mais ce qui est certain, c'est que, ou peut-être que d'ailleurs c'est un schéma qui doit être questionné aujourd'hui, mais c'est certainement le scénario, certainement l'histoire qui ne peut, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est si collectivisée, c'est pour ça qu'on est nombreux à donner son avis dessus au début, avant le tournage, c'est que dans le process de fabrication d'une série, dans le nombre d'acteurs auxquels on sera confronté, le nombre de décors, dans mon cas, après il y a peut-être des séries différentes, on ne peut se permettre, on ne peut pas prendre le risque d'avoir une réécriture poétique au moment du montage. Je crois que le process industriel même de la série, c'est ça. C'est de se dire, on va se faire confiance sur une histoire, et ensuite on va avoir une espèce de plus-value éventuelle, avec des acteurs qui peuvent être géniaux, et un réalisateur ou une réalisatrice qui va y apporter sa patte. Mais souvent, on peut même se satisfaire juste d'une très très bonne histoire, sans un bon réalisateur et sans très bons acteurs, et parfois on est très content. C'est-à-dire que, bon, mais c'est mieux quand on a tout.
On va rester sur ce climax et puis on va vous retrouver dans deux minutes. Rebecca Zlotowski, il est 7h30 sur France Culture. Rebecca Zlotowski est avec nous ce matin. Rebecca Zlotowski, cinéaste, réalisatrice d'Une fille facile sortie il y a moins d'un mois sur les écrans français et réalisatrice d'une série pour Canal+, dont le premier épisode sera diffusé lundi soir, intitulé Les Sauvages et dont nous parlons ce matin. On faisait référence à La Maison Blanche, cette série américaine. Rebecca Zlotowski, qui vous a inspiré, que vous avez regardé. Et c'est vrai qu'on a coutume de dire à La Maison Blanche, ça a été tourné avant l'élection d'Obama, comme un peu à House of Cards, son pendant plus cynique, disons, a été tourné avant l'élection de Trump, comme s'il y avait des liens entre la télévision, les séries télé et une élection politique. Vous y croyez, vous, à l'impact de la télé ?
Oui.
Dans la réalité ?
Oui, je le dis clairement. Je pense que, d'abord, si j'y croyais pas, je pense que j'en aurais pas fait. On est tellement libre en faisant des films, du cinéma, quand on est un réalisateur, une réalisatrice français. Donc, pour moi, la série est réellement... Oui, il y a une responsabilité politique, responsabilité, mais une promesse aussi politique. Je me souviens d'une époque où j'avais travaillé pour le feuilleton Plus belle la vie. Alors, c'est vraiment l'association de la carpe et du lapin, parce que moi, je venais de la FEMIS, l'université, et ce programme, c'est un programme très populaire. Mais je pense que c'est l'une des expériences les plus politiques de ma vie de scénariste. Un feuilleton qui s'adresse au quotidien à des millions de Français, qui est un feuilleton diurne, pas nocturne, qui est un feuilleton qui raconte jour après jour, en essayant de s'appuyer sur des événements du quotidien. Bon, l'idée n'est pas de faire la publicité de ce programme, même si je trouve que c'est intelligent, quand c'est aux mains de personnes qui sont sans cynisme. Et oui, c'est vrai que mon intuition, c'était que West Wing à la Maison Blanche, donc qui est une série qui ne parle que de fabrication, de l'investissement politique de toute une équipe, en gros, de conseillers du président aux États-Unis dans les années 90 et au début des années 2000, qui est une série d'Aaron Sorkin, immense scénariste et créateur de séries, pour moi, a amené l'élection d'Obama, a permis, a balisé le terrain et a permis, en fait, aux Américains, peut-être, de se regarder en se disant, et si on était vertueux, et si on aimait le politique, voilà. Et d'un autre côté, House of Cards, qui est l'un des programmes, c'est excitant hein, de parler de cynisme, c'est génial. Alan J. Pakula, le Parallax View, parler de complotisme, parler de cynisme, c'est un storytelling qui a amené les États-Unis là où ils sont en termes d'image, mais qui est l'un des storytelling les plus faciles, à mon avis, et qui crée un peu de passion triste.
Donc vous faites du soft power avec ce genre de série, Rebecca Zlotowski. Vous êtes une éminence grise maintenant.
Pas du tout, j'essaye en toute modestie de proposer un programme excitant et plein d'émotions.
À quel public ça s'adresse, Les Sauvages ?
À tout le monde, je pense. Mais un public peut-être moins élitaire en fait que plus moins comment dire hein, sur France Culture, moins élitaire que les films auxquels que mon public d'avant. Oui, je pense que il y avait une espèce de, et on parlait de la mise en scène un peu tout à l'heure pendant la publicité, il y a une idée même en mise en scène. Je crois qu'un réalisateur de série, il doit avoir un peu d'humilité à un moment pour se mettre au service de son sujet, au service de ses acteurs, au service du rythme puissant, sans quoi la série s'effondre.
Plus qu'au cinéma.
Un peu plus, oui. Au cinéma, on a une licence poétique. Enfin, il y a vraiment cette phrase de Pasolini qui compte beaucoup pour moi, qui serait de dire, il y a un cinéma de prose et un cinéma de poésie, et on a le droit, et surtout en France, d'être dans le cinéma de poésie. C'est-à-dire de prendre le risque de l'ennui, de prendre le risque, et pour plein de raisons. Et des raisons que je revendique puissamment, et auxquelles j'ai pas envie de renoncer. Mais avec la série, il faut... En tous les cas, ça a été mon trajet, moi, c'est de regarder comment on fait pour... Bah, s'amuser avec ça, avec joie, amuser le spectateur aussi, le divertir. Et il y a cette phrase de c'est quoi, c'est Molière, c'est on essaye de corriger les mœurs en riant. On essaye de divertir avec plein de couches de sens. Mais le divertissement, ça doit rester au centre.
Le fait que Netflix et Canal+, fassent alliance, vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour le cinéma ?
Alors ça, c'est très récent.
Oui, c'est tout récent.
J'ai envie de dire, je ne sais pas encore.
Ah bah, il va falloir que vous...
Je n'ai pas d'avis sur
Il va falloir que vous vous documentiez. C'est tout récent.
Non, mais
et
ça, puis,
et vous reviendrez nous en parler.
J'en ai entendu.
On va se quitter, Rebecca Zlotowski, avec la musique que vous aviez envie de donner à entendre à nos auditrices et nos auditeurs ce matin. Choix plutôt surprenant, choix très agréable.
Et pourquoi pas, on est samedi matin et il va faire beau. Pourquoi pas un peu d'amour ?
on peut marcher
sous la pluie,
prendre le thé
à minuit,
passer l'été
à Paris
quand on s'aime.
On peut se croire à New York, 5h du soir, 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok.
Quand on s'aime, on peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs.
On peut tout faire quand on s'aime, quand on s'aime. Écoute, écoute, puisqu'il varie tout le temps entre vos fixes et printemps.
On peut voler de soleil en soleil, nuit et jour, quand on s'aime. Oui, quand on s'aime,
on
peut marcher sous la pluie.
Alors quand on remet le rouge, vous chantez plus?
Bah non. Ah non, 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 non.
Nana Mouskouri et Michel Legrand.
Quelle voix extraordinaire elle avait. Lui, on connaît. Quelle voix extraordinaire elle avait, quelle amplitude. Quand elle chante jazz, Nana Mouskouri, je ne résiste pas.
Vous craquez. Merci beaucoup, Rebecca Zlotowski. Merci pour ce choix musical fort agréable un samedi matin aux Aurores à 7h40. Et pour Les Sauvages, qui sera donc diffusé à partir de lundi soir sur Canal+, et que je recommande très chaleureusement à nos auditrices et à nos auditeurs.
Merci, Caroline.
Merci à vous.